Cube Radio.
Premier touché dans la NFL pour la fierté du Rouge et Or, Anthony Auclair. Pendant ce temps, le bon docteur Laurent Duvernay-Tardif regarde le match au bout du banc. Finira-t-il la saison à Kansas City? Et il commence à faire chaud pour certains coachs. Maintenant que John Gruden est parti, qui sera le prochain? Après une démonstration de force sans équivoque, les Bills est la nouvelle équipe à battre dans la NFL. Tout cela et bien plus dans cette nouvelle émission de la Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue à cette émission de la Zone Payante, la sixième épisode, devrais-je dire, de votre podcast favori sur le football. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné. Et je vous présente mes deux experts qui m'accompagneront encore aujourd'hui, Jean Carrier et Stéphane Cadoret, tous deux journalistes et analystes au Journal de Montréal et de Québec. Salut les gars!
Salut messieurs! Six semaines, le temps passe vite, en bonne compagnie. Hein?
Ouais, salut les gars, très content d'être là aussi. Let's go!
OK, on commence avec l'histoire de la semaine. Une histoire qui est tombée nulle part. John Gruden, qui n'a pas survécu à des courriels envoyés il y a plus de 10 ans dans lesquels Gruden utilisait un langage homophobe. C'est quoi vos premières réactions? Est-ce que vous croyez qu'il aurait dû survivre à ces courriels ou c'était peine perdue?
Première des choses, là, tu mentionnes homophobe, mais il y avait des propos là-dedans aussi qui étaient à consonance raciste, misogyne. Il y avait plusieurs. C'était un cocktail assez explosif. Disons-le comme ça, puis c'est embêtant, tu sais, parce que Gruden, honnêtement, probablement qu'il avait pas l'intention raciste et misogyne et tout ça, ça reste des phrases de mon oncle qui se disent plus dans le contexte actuel, tu sais, c'est complètement inacceptable, c'est un manque flagrant de leadership. Là, il y en a certains qui disent « Ouais, mais il était pas coach à l'époque où il a sorti ces courriels-là, il était analyste à ESPN. » Ce que ça démontre, par contre, c'est que ça semble être une culture dans la NFL. Écoute, John Gruden, dans ses messages-là, il s'adressait à nul autre que le président de l'équipe de Washington, Bruce Allen, qui est le fils du légendaire entraîneur-chef George Allen. Tu sais, c'est toute une culture qui semble être gangrénée dans la NFL à ce niveau-là. Donc,
rappelons-nous qu'il y avait eu une enquête en plus sur l'équipe de football de Washington.
En fait, ces emails-là ressortent de cette enquête-là. On a enquêté à savoir qu'est-ce qui se disait dans les emails, les messages privés de l'équipe de Washington, puis c'est ça qui en est ressorti étrangement. Donc, Washington s'en sort sans tape sur les doigts alors qu'il y avait une culture extrêmement toxique dans cette organisation-là. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient fait des plaintes pour harcèlement. Donc, c'est ça qui est bizarre. C'est Gruden qui paie le prix d'une certaine façon. Est-ce qu'il méritait d'être dehors? Probablement. Là, moi, c'est pas ça que je débat. Mais là où j'ai un problème, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie là, dans la NFL actuellement. Pourquoi Tyreek Hill peut continuer de jouer? Pourquoi Kareem Hunt peut continuer de jouer? Pourquoi Adrian Peterson a connu des belles années après l'incident qui a impliqué de la violence à l'égard de son fils? Pourquoi Brett Favre, qui avait envoyé des textos très suggestifs, disons-le comme ça, poliment, à je pense que c'était une journaliste qui couvrait les Jets de New York à l'époque. Il y a toutes sortes d'histoires comme ça impliquant des joueurs. Les proprios sont pas plus tenus responsables. Regardez Daniel Snyder, l'exemple avec Washington qu'on mentionnait, une culture vraiment toxique dans l'organisation. Robert Kraft, les culottes baissées, en train de se faire des massages. Ça, c'est louche aussi. Pourquoi tout le monde n'est pas tenu au même standard? Moi, c'est là où j'ai un problème dans cette histoire-là. Cela dit, Gruden a dit des propos qui sont carrément stupides. Ça méritait assurément réprimande.
Peu importe l'époque.
T'sais, c'est ça, peu importe. C'est ça aussi. On dit, aujourd'hui, ça se dit pas. Comme si il y a 10 ans, ça se disait. T'sais, c'est ça, faut être clair là-dessus.
Jean, toi, de ton côté, on parle de le retirer du Ring of Honor là, à Tampa Bay parce qu'on sait qu'il a remporté le Super Bowl avec les Buccaneers au début des années 2000. Est-ce qu'on va trop loin?
Ben, c'est vraiment un autre débat. Ça, pour moi, peut-être oui un peu parce que moi, ça enlève pas ce qu'il a fait comme entraîneur puis la place qu'il a méritée. Cependant, la question de départ, c'est est-ce qu'il mérite d'être dehors? La réponse, c'est oui. Puis,
oui.
Faut faire aussi une différence parce que quand l'histoire est sortie, c'était un courriel il y a 10 ans ou 7 ans. Là, après, avec le New York Times, on a vu que c'était vraiment une suite de courriels pendant une période de 7 ans. Puis à chaque fois, il y avait beaucoup de propos homophobes, misogynes, racistes.
Faut pas oublier. Non, il y a aussi un volet où il insultait le commissaire de la Ligue, là, tu sais.
Il y a même un volet, Jean-Nic, aussi, qui est assurément contre la protection des joueurs. Ça aussi, pour moi, ça fait aucun sens. Là, avec
il n'aurait jamais survécu à son vestiaire, Gruden. S'il n'avait pas démissionné, jamais il aurait survécu à un vestiaire où plus de 70% des joueurs sont noirs. Il y a le premier joueur ouvertement gay aussi, en Carl Nassib. Imaginez se présenter dans ce vestiaire-là puis essayer d'avoir de la crédibilité après.
Non, c'est impossible. Pour le point de Dan Snyder, c'est ça, moi, qui je suis d'accord avec Stéphane un peu. Moi, c'est pourquoi les courriels de Dan Snyder, on n'est pas au courant de ce qui se passe? Je te garantis que John Gruden n'est pas tout seul là-dedans. Là. C'est une culture misogyne. Il y a 50 femmes qui ont porté plainte, qui ont déclaré que c'était un véritable enfer de travailler là. Il y a eu vraiment là, une culture absolument horrible qui s'est passée. Puis c'est John Gruden qui paye la taxe, comme on dit. Ben, je veux dire, ça fait aucun sens. La vérité, c'est que la NFL protège celui qui fait l'échec. Et pas celui qui en reçoit un. C'est ça la vérité.
Puis ça, pour moi,
c'est vraiment de l'hypocrisie, ça.
Sur ton point du Ring of Honor des Bucks, juste deux exemples comme ça. Warren Sapp est toujours dans le Ring of Honor des Bucks. Il a été impliqué, lui, dans une histoire d'harcèlement avec une employée de NFL Network. Il a été même renvoyé de NFL Network là, pour des méfaits aussi là, qu'il a fait par après. O.J. Simpson est encore dans le Ring of Honor des Bills de Buffalo. Il y a un moment donné, là, ça va aller jusqu'où, cette histoire-là? C'est là où j'ai plus de misère puis que je décroche personnellement.
Parce que c'est ça. Parce que la question, c'est soit qu'on les enlève toutes ou qu'on permet de garder l'héritage de ce qui a été fait sur le terrain.
Exact. Mais c'est un peu... Ça revient un peu à un argument de la culture.
Je veux pas être celui qui décide.
Non, moi non plus. Puis le seul point aussi que je dis, c'est ça restait une conversation privée dans un courriel. Ça excuse pas John Gruden.
Non, absolument mais là, on s'entend que tous les coachs qui ont envoyé des courriels depuis 20 ans...
ça doit marcher.
C'est ça.
C'est
seulement mon point. Si on commence à faire ça avec l'entièreté des gens qui travaillent dans la NFL... Ben, John Gruden sera pas le seul à tomber, là. J'avale pas ça pour une seconde, là.
Heureusement que nous, quand on a des conversations privées, on dit rien de ce genre-là. OK.
Tu sais, faut pas non plus, faut pas dans ça, tu sais, on n'est pas en train, je pense, de défendre Gruden. On amène un peu de contexte. Faut pas non plus penser que ses propos étaient justes et qu'ils étaient pas condamnables. Tu sais, la morale de l'histoire, c'est qu'il était dans une position. Personne devrait dire ça. Mais encore moins quand tu es dans une position de leadership, dans un contexte professionnel, c'est carrément un manque flagrant
non,
de jugement.
Ça, mettons qu'on termine là-dessus. C'est vrai que c'était des courriels dits privés, mais c'était dans un contexte professionnel.
Exact.
Et que là, il y a une différence à être dans un safe space avec ses amis, dans un groupe Messenger, puis envoyer des courriels à des gens dans leur adresse, sur leur adresse professionnelle.
Puis le faire une fois... Peut-être que ça pourrait être excusable, mais quand tu vois le contexte, c'est dans toutes les courriels sur une très, très, très longue période, ben, la bonne décision a été prise, puis ben, les Raiders devront tout simplement passer à un nouveau coach.
OK, les gars, je vous arrête. On va reparler de toute façon, parce que là, d'après moi, les enjeux qui ont été étudiés à Washington vont continuer de sortir dans les médias dans les prochaines semaines. On va suivre ça ici à la zone payante. Par contre, là, restez là parce qu'après la pause, ben, c'est notre match qui commence nos trois premiers essais. Alors restez là, on en reparle tout de suite après la pause.
Des Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Here it comes. First down! Here it comes. First down, says Red Cashin.
Vous êtes à la zone payante et le match débute avec notre premier essai. On va aller du côté de Stéphane Cadorette. Et Steph, j'aimerais ça que tu me fasses un peu... Là, on a trois Québécois en ce moment dans la NFL. C'est bizarre, là. On a vu le toucher incroyable d'Anthony Auclair. Quel catch, par ailleurs.
Ouais.
Et on se dit, bien malin qu'il aurait prédit qu'Anthony Auclair aurait une meilleure saison que Laurent Duvernay-Tardif. qu'est-ce qui se passe avec nos Québécois ces temps-ci dans la NFL?
Ben, Auclair, tu l'as mentionné, un très beau toucher. Puis, moi, pour moi, ça, c'est le couronnement de longues années de persévérance. Parce qu'Anthony Auclair, le toucher, oui, c'est spectaculaire, puis ça fait parler, et tant mieux. Mais il ne faut pas penser que c'est devenu un bon joueur de football depuis ce toucher-là. Ça, c'est important de le mentionner. Il y a un rôle dans l'ombre, il y a un rôle effacé, mais il est très reconnu au sein de son équipe, que ce soit Tampa Bay, que ce soit Houston actuellement. Il a toujours été reconnu comme l'un des bons bloqueurs à sa position d'ailier rapproché. Il n'y avait pas besoin de ce toucher-là pour asseoir sa légitimité comme joueur. Ça, c'est sûr. Par contre, le fait d'inscrire un toucher, tu sais, c'est une récompense pour un travailleur acharné. C'est un exemple à suivre. Moi, je lui ai parlé, puis il n'a pas caché l'importance du moment. Là, dans un article que j'ai écrit, il était très clair. Il dit, c'est un moment important. Écoute, c'est le premier touché pour un Québécois dans la NFL depuis Chimanga Biakabutuka le 21 octobre 2001. Donc, presque 20 ans jour pour jour. Ceux qui pensent que c'est un touché comme un autre, j'ai même eu un commentaire sur Twitter de quelqu'un qui me disait, ouais, mais c'est un touché dans une défaite. Écoute, c'est pas ça l'importance historique du moment. Là. C'est d'une rareté exceptionnelle. Donc, chapeau Anthony Auclair. Puis pour ce qui est de Laurent Duvernay-Tardif, comme tu le mentionnais en introduction d'émission, il est sur le bout du banc depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'il est sur l'alignement régulier, mais il fait partie des joueurs inactifs à chacun des cinq matchs jusqu'à maintenant. Il est pas en uniforme. Il y a une question de polyvalence là, qui est impliquée là-dedans. J'essaie de m'expliquer rapidement. On a un gars comme Mike Remmers qui est habillé. C'est pas nécessairement que c'est un meilleur joueur de football que Laurent, mais il peut jouer garde, il peut jouer bloqueur. T'as un gars comme Andrew Wiley qui est habillé. On le sait, avant, c'était le réserviste de Laurent. Mais Andrew Wiley est capable de jouer garde à gauche, garde à droite. T'as un gars comme Nick Allegretti qui est habillé à chaque semaine, qui peut jouer garde, qui peut jouer centre. Donc, vous voyez où je veux en venir. Laurent Duvernay-Tardif, très bon joueur de football. Il a déjà prouvé là, il y a quelques années qu'il pouvait être parmi les meilleurs de sa profession à sa position. Mais lui, c'est un garde à droite. C'est ça qui lui fait mal actuellement. Garde à droite, les options sont limitées. Si tu de la bille, c'est le garde à gauche qui se blesse, ça peut pas se remplacer en criant ciseaux. Puis ce que je sais, c'est que Laurent, dans les dernières semaines, a pris quelques répétitions lors des entraînements comme garde à gauche. Il est en train d'apprendre tranquillement la position parce qu'il faut pas penser que le changement est si simple que ça peut en avoir l'air. Puis actuellement, il y a Joe Tooney qui est blessé, l'excellent garde à gauche des Chiefs, un des joueurs vedettes de cette ligne offensive-là. Est-ce que Laurent pourrait être appelé à voir du terrain ou à tout le moins à être en uniforme? Ça reste à voir dans les prochaines semaines, mais ça pourrait changer. Une saison de football, c'est très long.
Parce que même pour l'échanger, ouais. les autres équipes cherchent aussi de la polyvalence là, sur la ligne. Là. C'est de plus en plus à la mode là, dans la NFL.
Ouais, c'est ça. C'est de plus en plus ce qui va définir les joueurs de ligne offensive, là, être capable d'évoluer à des positions qui sont différentes. Est-ce que Laurent pourrait être échangé? Moi, je continue d'en douter. Il y a une clause de non-échange dans son contrat. Ça complique la donne un peu. Je pense qu'il veut rester à Kansas City. Il apprécie sa situation, même si actuellement, c'est pas l'idéal parce qu'il joue pas. Mais je serais pas surpris de le revoir sur le terrain éventuellement. Comme je le disais, la saison est longue.
Rapidement, dans le cas de notre troisième Benjamin Québécois, Saint-Just, ouais, exact.
Ouais, c'est ça. Benjamin Saint-Just, ben lui, la bonne nouvelle, c'est qu'il est revenu de sa commotion cérébrale. On s'en était parlé il y a deux semaines. Donc, il a joué en fin de semaine. Jusqu'à maintenant, tu sais, quand il joue, à part son premier match qui a été très difficile, il rend quand même de bons services à l'équipe de Washington, mais c'est très dur défensivement, globalement, pour Washington. Donc, pense que c'est pour ça qu'on n'en entend pas vraiment parler. Il fait son travail, mais c'est une défensive qui a tellement, tellement de difficultés que c'est beaucoup plus négatif là, quand on parle de cette unité-là.
Incroyable, une défensive qu'on croyait top 5 de la Ligue et un début de saison pénible. OK, merci Steph. Deuxième essai, on va aller du côté de Jean. On parlait de John Gruden tout à l'heure, mais là, c'est comme s'il nous avait fait oublier que des entraîneurs sont sur la sellette. Si t'avais à gager, là, c'est qui le prochain coach qui part dans la NFL?
Écoute, si j'avais à gager, là, présentement, je mettrais de l'argent sur Urban Meyer. Ça reste...
Pour ses résultats ou pour sa...
L'ensemble de l'œuvre, honnêtement, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. C'est vraiment pas un bon début. Et puis le début escompté à Jacksonville, beaucoup de... Un, les résultats sont pas là. Il est pas habitué à ça. Deux, tu sais, moi, quand il a pris le boulot, tu sais, j'ai dit, ça peut être une bonne embauche, mais il faut qu'il apprenne à dealer avec des joueurs professionnels qui sont plus matures, plus âgés. Et c'est clairement ça qu'il a pas fait. Et ça, pour moi, c'est une grave erreur. On entend parler qu'il prend, tu sais, qu'il y a des scènes de colère dans des vraiment qui sont pas opportuns. Soit sur le play calling, soit il pète des notes sur des joueurs, sur des assistants. Puis quand tes assistants entraîneurs te back pas comme entraîneur chef, ça commence à sentir vraiment vraiment pas mauvais. Urban Meyer a besoin d'une victoire, puis il y a pas un alignement qui peut lui procurer ça assez rapidement. Moi, je pense que c'est vraiment lui qui va peut-être sauter le plus rapidement possible. Une chose est sûre. Il devait être quand même content de ce qui se passe quand même avec John Gruden, parce que ça lui a évité de répondre à des questions, je pense, plus tannantes un peu pour les prochaines semaines. Tu regardes qui est sur le hot seat aussi, ben Matt Nagy, mais écoute, les Bears viennent de sortir d'un gros match, donc il est peut-être pour l'instant, ça va, puis quelques semaines. Puis il a solidifié un peu la position de carrière en disant que Fields était là pour un petit bout. Donc ça, je pense que juste ça, ça va peut-être l'aider un petit peu, va peut-être s'acheter du temps. Joe Judge aussi, l'entraîneur-chef des Giants, lui aussi, pas un grand début. Puis là, il a un alignement. Je peux pas le mieux l'illustrer, c'est exactement. Il n'y a plus de joueurs. En tout cas, il n'y a plus de joueurs de grand talent qui est présentement avec les Giants.
Mais peut-être que ça va lui donner un break, là.
Ouais, peut-être d'un autre côté aussi, mais tu sais, c'est souvent aussi un nouvel entraîneur-chef, pour que tu lui donnes du temps. Dans le cas d'Urban Meyer, c'est que j'ai l'impression qu'il a perdu son vestiaire. Si c'est le cas, ben, même si tu lui donnes du temps, ça reviendra pas. Tu sais, je veux dire, il a perdu le respect. Des athlètes, puis en plus, comme je parlais, des personnes qui travaillent avec lui, c'est quasiment quelque chose, c'est un point de non-retour là, pour moi. Donc, on va voir, peut-être qu'un voyage à Londres va peut-être mettre un petit baume là-dessus, mais j'ai des gros doutes. Donc, pour moi, mon argent est sur Urban, sans broncher.
OK, merci Jean. Maintenant, on va passer au troisième essai, les boys, si vous voulez bien, parce que là, il y a un changement de garde là, qui s'opère dans la NFL. Là, on le dit depuis quelques mois ou années même, là, parce que déjà, les Chiefs avaient un peu bousculé l'ordre établi. Mais là, les Cards, les Bills, les Chargers, et on pourrait quasiment dire aussi les Cowboys, se retrouvent au sommet des classements, là, des différents classements des meilleures équipes. Quelle équipe, selon vous, a la meilleure recette de succès pour rester au sommet en ce moment?
Une bonne question. Qu'est-ce que ça prend pour être très, très bon dans la NFL? Ben, moi, je vois souvent un jeune carrière, mais qui est pas à ses premières armes non plus. Là, t'en as quelques-uns, dont les Bills avec Josh Allen. Donc, des carrières spéciales. Ça te prend du talent à travers l'alignement. Puis les bons outils, évidemment, qui entourent ton jeune carrière. Quand tu regardes ça, je pense que l'équipe qui est peut-être le mieux positionnée, c'est les Bills. Les Bills ont un alignement qui est vraiment, vraiment profond. La défensive est incroyable. Présentement, meilleure défensive de la NFL. Offensivement, il est bien entouré. Je pense quand même qu'il manque un petit quelque chose sur la position de porteur de ballon. J'aimerais ça des fois qu'il soit en mesure de courir le ballon un petit peu plus. Mais en dehors de ça, je pense que les Bills sont vraiment peut-être l'équipe la mieux positionnée. Les Cards, ça va bien aussi. Eux aussi ont quand même du talent dans l'alignement. Kyler Murray est un des très, très bons jeunes carrières. Pour ce qui est des Chargers, à mon avis, ils sont peut-être encore un petit peu trop jeunes. Oui, ils viennent de sortir un match incroyable face aux Browns, mais faut pas oublier qu'ils ont donné beaucoup de points puis ils étaient quand même dans une situation où ce qu'ils allaient probablement perdre. Puis ils sont revenus, je leur donne du crédit. Justin Herbert est vraiment, vraiment spécial. Moi, il m'impressionne, les gars, là, vous avez aucune idée. Il a un canon comme bas, vraiment un canon. Il est bon, mais je pense encore qu'ils sont peut-être encore un petit peu trop jeunes pour faire le step, justement, à devenir la meilleure équipe de l'AFC.
Steph, est-ce que tu vois des équipes continuer leur descente? Là, on parle des Pats là, qui ont quand même connu une mauvaise saison l'an passé, qui ont de la difficulté à retourner au sommet, les Steelers, ou même les Packers qui sont vieillissants.
Ouais, je vois pas les Packers en descente. Tant qu'Aaron Rodgers est là, on pourra peut-être en reparler l'an prochain. Là. J'ai comme l'impression que c'est vraiment la dernière année là-bas. Non, dans les équipes que tu mentionnes, les Pats, je les vois pas nécessairement non plus en descente, mais c'est clair qu'ils font un pas de côté actuellement. Là. T'sais, ça va prendre une période d'acclimatation pour Mac Jones, c'est normal. Il joue bien jusqu'à maintenant. À chaque semaine, il nous montre qu'il grandit un peu, garde une poussée victorieuse, une remontée face aux Texans de Houston. Puis, moi, du côté des équipes de tête que tu mentionnais, écoute, c'est pas original, mais j'ai pas le choix d'y aller aussi avec les Bills. Peut-être mentionner des aspects différents que ce que Jean a déjà amené, mais il y a un côté que j'aime beaucoup, beaucoup par rapport à cette équipe-là, en comparaison à d'autres qui sont au sommet aussi. Il y a une grande continuité chez les Bills. C'est Sean McDermott, l'entraîneur-chef, est là depuis 2017, mais mieux encore, t'as Leslie Frazier, le coordonnateur défensif, qui est là avec lui depuis 2017. Brian Daboll, le coordonnateur à l'attaque, qui est là depuis 2018. Tu sais, quand est-ce qu'on voit ça, une équipe de tête dans la NFL qui conserve ses coordonnateurs année après année après année? Tu sais, il y a une culture forte qui est implantée là-bas, un noyau dur avec ces entraîneurs-là. Je pense que ça rapporte aux Bills actuellement, puis que ça peut leur rapporter dans les moments critiques aussi. Puis l'expérience aussi de cette équipe-là, tu sais, l'an passé, c'est quand même une équipe qui s'est rendue en finale de conférence. C'est un club aussi qui a fait les séries trois fois lors des quatre dernières années. Ça veut dire que la maturité est là. T'sais, c'est un club qui est prêt à faire le prochain pas. En ce sens-là, moi, je vois les Bills faire un grand bout de chemin. Puis Jean mentionnait la profondeur, c'est important. Il y a un graphique qui était très intéressant lors de la présentation du match à NBC dimanche. Il mentionnait à quel point il y a plusieurs joueurs de ligne défensive qui sont en rotation, qui jouent à peu près le même nombre de snaps par match. T'sais, c'est pas une ligne à trois ou quatre joueurs, les Bills, puis on les use à la corde. Il y a une belle rotation de talent de ce côté-là. C'était pas le cas du tout l'an passé, puis ça a fait défaut. Là. Quand ça vient le temps pour chasser Patrick Mahomes en finale de conférence, ça te prend des gars qui ont les forces fraîches. Puis les Bills, actuellement, c'est exactement ça qui amène sur le terrain.
Petite question sur les Bills. Est-ce que si vous étiez directeur général ou coach, vous échangeriez ou vous libéreriez Cole Beasley avant la fin de la saison?
Actuellement, moi, je le vois pas là, comme une nuisance. C'est vrai qu'avant le début de la saison, je me posais la question pour ses positions tranchées. Je me demandais si ça allait faire des
clans dans le vestiaire. Encore cette semaine, ses conférences de presse tournent autour de ça.
Ça peut devenir une distraction. Ça dépend. C'est les coachs qui ont le feeling du vestiaire dans l'équipe. Ça, on n'est pas là pour le juger. Les coachs voient si ça crée des clans, si ça crée des divisions. C'est sûr que le moindrement que c'est le cas, faut que t'agisses, je pense. Les Bills ont trop une bonne équipe pour se laisser empêtrer dans des débats qui n'ont pas rapport à leur performance sur le terrain. Si toutefois Beasley est apprécié dans le vestiaire, qu'il n'y ait pas de nuisance, à ce moment-là, tu vis avec ses prises de position. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le trancher.
Faut que tu t'assures d'avoir un retour quand même intéressant parce qu'il est quand même important dans l'attaque des Bills. C'est pas le jeu. On s'entend que c'est pas le receveur numéro un.
Emmanuel Sanders souvent, a pris pas mal de place, par contre.
Là. C'est sûr, mais il est quand même visé quand même dans des situations importantes de troisième essai, puis ça va, tu sais, ça t'amène de la profondeur, t'en as de besoin dans la saison, tu sais pas ce qui va arriver avec les blessures. Moi, je le garderais si c'était possible. Si c'est impossible, comme Stéphane l'a mentionné, à un moment donné, tu passes à autre chose.
OK, merci les gars. On va faire une pause et au quatrième essai cette semaine, on va jouer à « Que diriez-vous? » Restez là. On est à la zone payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, en compagnie de Stéphane Cadorette et Jean Carrier. Quatrième essai, les boys. On y va.
Ben oui,
cette semaine, nouveau jeu. Que diriez-vous à? Donc, je vous pose la question, que diriez-vous? Et je vous dis un nom ou un partisan ou une équipe. Et vous me dites, qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là, OK?
Prends-moi pas hors contexte, Jean-Nic, pour citer ça, là, mais j'aime ça, tu nous amènes des nouveaux jeux.
Oui, je sais, je suis tellement ludique. Je suis le Patrice Lécuyer du football.
Bien, et voilà.
Merci. OK, que diriez-vous à John Gruden?
Écoute, je vais sortir mon latin. Verba volant, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'était vrai à préhistoire, c'était vrai avec les hiéroglyphes sur les pyramides, sur le papyrus, pis c'est encore vrai dans des courriels. Si t'as pas appris ça, je peux rien faire pour
mais
toi.
Mais mon doux, t'es donc bien instruit, Jean.
Ouais, Jean, tu m'épates là, du latin.
OK, toi, Steph.
Ça réveille, ça. Ça réveille. Il faut dire qu'on enregistre
quelque chose à John Gruden.
Ouais, moi, je lui dirais tout simplement, sans retaper sur le clou, là, je pense qu'il y a assez de monde qui ont tapé sur le clou. Je lui dirais simplement, sois humble, reconnais tes torts, puis apprends à devenir une meilleure personne. Tu sais, je pense que c'est ce qu'il peut faire de mieux pour lui, pour les autres autour de lui. C'est tout simplement ce que je lui dirais.
Que diriez-vous à Zach Wilson, le carrière des Jets?
Accroche-toi, jeune homme. Écoute, c'est pas drôle en ce moment. Il est en voie de, si ça continue à ce rythme-là, il est en voie d'avoir 30 interceptions là, dans sa saison recrue. Ça éclipserait le record de 28 établi par Peyton Manning en 1998. Puis ce que je lui dirais, accroche-toi, c'est que regarde finalement, Peyton Manning a pas trop mal viré. Donc, tout va bien aller.
Oui, déjà en train de poursuivre des records de légende.
Ouais.
Peut-être pour celui qui veut.
Moi, je dirais, suis le processus. Ça va être long, ça va être pénible par moment, mais faut jamais que tu montes, que tu baisses les bras, surtout dans la NFL. Tu vas grandir à un certain moment donné. Ton talent, il est pas disparu du jour au lendemain. Il y a une raison pourquoi les Jets t'ont choisi. Mais il faut que tu travailles, mais il faut jamais que tu concèdes quoi que ce soit et que tu baisses les bras.
Que diriez-vous à la femme de Tom Brady, Gisèle, qui a vu son mari encore performer de façon exceptionnelle en fin de semaine? Un premier match de 400 verges et de 5 touchés pour le beau Tom.
Je me demandais où tu t'en allais avec Gisèle. Là. Je me demandais ce qu'elle venait faire dans la discussion, mais puisque tu l'amènes comme ça, moi je dirais, Gisèle, va falloir que tu t'armes de patience. Tu sais, tes projets de retraite paradisiaque au Costa Rica avec Tom Brady, pas avant qu'il commence à décliner là, vers 71-72 ans. Avant ça, pense-y pas.
Moi, je dirais, je comprends toujours pas ton choix de Tom pendant que j'étais disponible.
C'est
une décision hautement controversée, là. Je comprends toujours pas. J'ai besoin d'explications là-dessus.
Je veux pas prendre trop de temps, mais je peux t'expliquer si tu veux.
OK, c'est bon.
OK, les gars, qu'est-ce que vous diriez à un partisan des Dolphins?
Je vous dirais, je vous comprends et la route va être longue, un partisan des Browns.
Oh. Signé un partisan des Browns.
Écoute, je pourrais pas dire mieux. Moi, je dirais que pour l'instant, c'est peut-être mieux de se changer les idées. Je suis convaincu que sur le terrain, il y a des feuilles mortes à ramasser. Il y a des belles randonnées à faire d'un couleur d'automne. Puis, effectivement, Jean l'a mentionné, si ça a viré de bord pour les Browns, c'est sûr et certain que ça va virer de bord pour Miami. Donc, blague à part, ça va changer. Mais malheureusement, c'est un début de saison extrêmement pénible. On voyait vraiment pas les Dolphins aussi mauvais.
Qu'est-ce que vous diriez à Frank Reich, l'entraîneur des Colts, qui est allé d'un jeu plutôt conservateur en fin de match qui lui aura finalement coûté la partie?
Ouais, ben si j'y dirais, écoute, quand tu as une avance comme ça puis que tu vois l'autre équipe revenir de façon foudroyante,
c'est que tu n'as plus le momentum.
Lève pas ton pied du gaz. Il y a beaucoup de coachs qui font cette erreur-là. On va écouler le temps, puis à la fin du match, on va leur mettre un petit botté dans les dents. Quand t'as une fin de semaine comme ça, dans laquelle les botteurs sont tout croches, c'est sûr qu'il va arriver un cataclysme. Il a misé sur des courses, on écoule le temps, on fait un botté. Too bad, honnêtement, mauvaise gestion de fin de match. Là. Donc, je lui dirais, lève jamais le pied du gaz.
Je dirais aussi, fais attention parce qu'il n'y a pas trop de Mulligan comme coach dans la NFL. C'est ta décision, Carson Wentz, puis c'est pas encore, ça s'est pas concrétisé encore sur le terrain.
Qu'est-ce que vous diriez à un jeune kicker là, après avoir vu tous ses placements et ses points après le toucher raté?
Change de branche.
Ah oui?
Ah oui, tu vas aussi.
Non. Là, plus sérieusement, écoute, il y aura des jours meilleurs, tout simplement. Puis il y en a eu des jours meilleurs. On le sait, il y a deux semaines, on faisait leur... C'est-tu la semaine passée ou l'autre d'avant?
Il y a deux semaines.
On faisait leur éloge à la zone payante. Donc, c'est une blague, c'est une boutade. Là, non, il y aura des jours meilleurs pour les kickers.
Ouais, moi, c'est juste garde une mémoire courte. C'est important comme botteur. Le botté le plus important, c'est ton prochain.
Qu'est-ce que vous diriez à un promoteur qui aimerait présenter un match de la NFL au Canada et là qui voit qu'il y en a à Londres et qu'il va en avoir un jour en Allemagne? Est-ce que la Corée du Nord va en avoir un avant le Canada?
Ouais, peut-être pas la Corée du Nord, mais la Chine.
Avant toute chose, les gars, là, avant toute chose, je vous le dis, là, c'était en 2019, il y a eu un match hors concours à Winnipeg.
Avant un match de saison régulière, là.
Ouais, c'est ça, mais avant toute chose, je veux juste dire qu'il faut que le promoteur s'assure de ligner le terrain de la bonne façon.
Ah parce oui, ça avait été un fiasco.
Ça avait été tout un fiasco. Il avait enlevé les poteaux des buts, parce que les poteaux des buts sont évidemment en avant dans la CFL. Ça avait fait deux gros trous, finalement. Il avait décidé de ce match-là de raccourcir le terrain de 80 à 100 verges. Bref, assurez-vous de ligner au moins le terrain de la NFL comme il faut, s'il vous plaît, avant d'organiser quoi que ce soit.
Bon point. Moi, monsieur le promoteur, je lui dirais, si tu penses à présenter un match au Canada, pourquoi on parle toujours juste de Toronto? Tu sais, la NFL avait pas été un franc succès à Toronto là, quand les matchs des Bills étaient présentés là-bas une fois par saison pendant quelques années. Puis, il y a beaucoup de proximité avec le marché de Buffalo. Là, on parle d'une heure et quelques de route. Montréal t'attend. Tu sais, pourquoi pas t'essayer pour un match à Montréal? Je te parle pas d'implanter une équipe d'expansion, on verra pas fou, là. Mais pour un match, je suis convaincu que la réponse serait formidable à Montréal. Donc, c'est ça, Montréal t'ouvre ses bras.
Que diriez-vous au préparateur physique des Giants?
Ouf, j'y dirais, apprends à déléguer parce que tu vas avoir beaucoup, beaucoup d'ouvrages dans les prochains jours. Là. Hey, Daniel Jones, Saquon Barkley, Kenny Golladay, il n'y a pas un receveur des Giants à peu près qui est en santé. Écoute, 7 partants de la semaine 1 des Giants sont actuellement à l'infirmerie, 7 partants à l'attaque. Là, je compte même pas ceux en défensive. Donc, apprends à déléguer, tu vas avoir beaucoup d'ouvrages, mon ami.
Moi, je dirais, t'as peut-être oublié la flexibilité dans tes trucs, hein, parce que la puissance, la vitesse, c'est important.
Mais oui, c'est ça, parce que c'est...
La flexibilité, je veux juste y rappeler que c'est important.
Parce que des fois, quand il y a autant de blessures, là, il y a peut-être... c'est le hasard, là, c'est la NFL, je comprends qu'il y a des blessures, là, mais peut-être des fois, tu peux regarder du côté de la préparation physique.
Hein. Oui, tout à fait. En tout cas, révise tes notes.
Que diriez-vous au propriétaire des Seahawks de Seattle?
Je vais tourner le fer dans la plaie. Je vais lui dire, depuis 2014, et la célèbre défaite au Super Bowl face aux Pats et Tom Brady avec Marshawn Lynch qui avait été oublié, ben, votre fiche en série éliminatoire de 1 victoire, 5 défaites, et cette année, ça se peut même pas que tu les atteignes. C'est ça que je dirais.
Ouais. C'est fort possible que la saison des Seahawks ait pris le clos avec la blessure de Russell Wilson. Puis moi, j'y dirais aussi, fais-toi pas d'idées trop là, sur Geno Smith. Là. Il y en a beaucoup là, qui... Ah, il a très bien joué en relève à Russell Wilson, l'autre jour. Ouais,
il était bon, par exemple.
Je resterai calme sur Geno Smith. Là. Je trouve que s'emballer pour une séquence quand il est arrivé un peu à l'improviste... je me garderai une petite gêne. Là. Les espoirs des Seahawks en ce moment sont pas trop à la hausse.
Que diriez-vous à Patrick Mahomes?
Je dirais, prochaine fois que tu négocies ton contrat, t'es pas nécessairement obligé d'avoir le plus gros contrat de l'histoire du sport. T'aurais peut-être une meilleure défensive présentement.
Hmm. Steph?
Je lui dirais que il va falloir qu'il soit encore meilleur si c'est possible, là, parce que c'est la première fois, moi, je pense, depuis que les Chiefs sont avec Patrick Mahomes, qui marquent moins de points qu'ils s'en font marquer. Tu sais, on a toujours dit les Chiefs, c'est correct s'il y a une défensive ordinaire parce qu'ils vont marquer quand même 35-40 points. Actuellement, 154 points marqués, 163 points contre. Ça veut dire qu'il va falloir que tu en marques encore plus des points. Puis ça peut pas se faire quand tu joues de façon aussi négligente avec le ballon. Trois revirements encore contre les Bills pour Mahomes, c'est très, très négligent actuellement. C'est pas du football propre qu'on le voit jouer.
OK, les boys, question quiz cette semaine. Rich Bisaccia. Est-ce que vous savez qui est Rich Bisaccia?
Ça part pas bien, là.
C'est l'entraîneur par intérim des Raiders, mais je suis sûr que c'est pas ta question quand même.
Évidemment. Rich Bisaccia, je sais pas si je le prononce comme il faut, mais bon. Le beau Rich va devenir le cinquième entraîneur de Derek Carr depuis son entrée dans la NFL. Il fait partie d'un club select, ça. Il y a Joe Namath, Mark Bolger, Ken Anderson, Dan Fouts, Greg Landry, Steve Grogan, qui ont chacun eu 5 entraîneurs. Mais il y a un joueur qui a eu un carrière qui a eu 7 entraîneurs pendant sa carrière. Qui est ce carrière?
Ben, ça peut juste être Ryan Fitzpatrick.
Eh non! 7 entraîneurs.
Il a joué pour quand même 10 équipes.
Oui, mais dans la même équipe.
Ah, dans la même équipe.
Ah, voilà.
Okay. Oh boy. Je suis obligé de rendre les armes là-dessus.
C'est un.
Kirk Cousins, peut-être?
Non. C'est les Jim Hart, évidemment, c'est avec les Rams. Joe Namath, c'est avec les Jets. Ken Anderson avec Cincinnati. Mark Bolger, c'est avec les Rams. Le carrière qu'on recherche, lui, était pour les Saints de la Nouvelle-Orléans.
Archie Manning.
Wow, excellent.
Bonne réponse, Jean. Donc, Archie Manning.
Ça a pris un indice, par contre. Là,
a joué pour 7 entraîneurs avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Avec lui, on a vu passer des coachs.
Jeunes qui écoutent l'émission qui ont jamais vu les Saints mauvais, là, mais ça a été une franchise absolument pitoyable pendant des décennies, pas pendant des années, là. C'est dur à imaginer là, pour nos jeunes auditeurs, mais oui, les Saints ont déjà été pourris.
Et pour les jeunes auditeurs, Archie Manning était le père de Peyton Manning. Oui.
Et bientôt le grand-père du jeune carrière là, qui se pointe.
Archie Manning.
Exact. OK, les gars, restez là parce qu'après la pause, c'est l'heure des prédictions pour la semaine 6 de la NFL déjà. Restez là.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
On est à la zone payante et c'est le moment de faire les prédictions pour cette semaine en compagnie de nos experts Stéphane Cadorette et Jean Carrier. Messieurs, débutons avec le match. Ben, en fait, débutons avec vos résultats parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui veut se taper sur le torse.
Mais tu veux-tu justement que je donne le décompte, Jean?
Bien sûr, je t'en prie.
Écoute, Stéphane est tout feu, tout flamme depuis sa première semaine. La semaine passée, 14 en 16. Là, impressionnant, très impressionnant.
On va commencer par prendre tes pics, là.
Ouais, prendre tes pics puis mettre de l'argent sur Stéphane. C'est plus simple que ça, là.
T'es en train de me jinxer, Jean.
Parce qu'il faut que je te rattrape. Mais il est 54 en 80, 77% d'efficacité. Dans mon cas, 11 en 16 la semaine passée, ce qui est correct, là. Mais je prends du retard, je suis 47, j'accuse un record de 7. J'étais à 58%.
Petite parenthèse sur la semaine passée, c'est juste drôle pour qu'on fasse comprendre un peu aux auditeurs. T'sais, on s'écrit dans un chat privé, moi, Jean-Nic, puis Jean. Puis à un moment donné, moi, je vois passer que les Falcons vont être privés de leurs deux receveurs, Russell Gage et Calvin Ridley. C'est quand même pas rien. Puis la semaine d'avant, les Titans, ça avait été le même problème face aux Jets, puis ils avaient perdu. Fait que j'ai écrit au gars, hey, je change mon pick, je prends les Jets finalement, puis ils me disent non,
c'était ça,
c'est correct, c'est enregistré, oublie ça. Puis OK, d'abord, je vais me venger. Dans le journal, moi, j'ai mis les Jets en disant mes prédictions sont le samedi, là, je vais faire ça à mon goût. Et finalement, ben, c'est les Falcons qui gagnent. Donc, je suis prêt à dire que je ne l'ai pas eu celle-là si vous voulez me mettre 13.
Puisque vous
m'avez dit c'est enregistré, je vais la prendre, mais je voulais juste le mentionner à nos amis au
Quelle honnêteté.
Et pour ceux qui se le demandent, notre chat privé, on verra pas les conversations. Non.
On révélera pas la nature des propos, mais je peux vous confirmer que c'est beaucoup plus.
Il y a aucun propos.
Non, John Gruden s'ennuierait là, à nous là.
Oui, tout à fait.
OK, commençons avec le match de jeudi. Les Buccaneers qui s'en vont à Philadelphie après avoir... Tom Brady a même pas eu besoin de finir le match.
Ouais,
contre les Dolphins.
Les Buccaneers, ça devrait normalement aller assez rondement parce que tu vois, on parlait des Chiefs tantôt, il y a un match vraiment où l'offensive a explosé puis qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient, absolument ce qu'ils voulaient, puis c'est contre les Eagles. Je m'attends que ça soit assez pénible aussi de ce côté-là pour Philadelphie. Brady qui est tout feu, tout flamme. Puis il y a une bonne contribution aussi du jeu au sol avec Leonard Fournette. Là, faut pas l'oublier. C'est une attaque en ce moment qui est très complète. Là. Fait que victoire assez aisée des Dolphins. Des Buccaneers, excusez-moi.
Je déteste ça pas bien. Ce que les Eagles font à l'attaque, mais ils vont manquer de munitions.
Ouais, Flock, qui joue plus qu'un quart.
Ouais, puis l'autre point, oui, les Bucs, leur tertiaire est pas encore à 100%, mais je vois quand même pas les Eagles là, faire la surprise. Ils ont même aussi la deuxième pire défensive contre le sol. Donc ça se pourrait que Leonard Fournette explose dans ce match.
Je ne sais pas encore si je vais me lever pour regarder ce match-là dimanche, mais les Dolphins reçoivent. En fait, ils sont les visiteurs pour un match à Londres avec Jacksonville qui est l'équipe receveur. Les Dolphins favoris par 3, mais d'après moi, c'est là qu'il va avoir une surprise cette semaine.
Ah ouais, tu y vas. Hey, là, t'es carrément découragé de ton équipe. Là. Et moi, je peux pas croire. Je regarde cette équipe-là. Là, en plus, Tua revient. Il y a vraiment la fenêtre idéale pour revenir. Il va se battre contre les Jaguars. Puis la semaine prochaine, sauf erreur, c'est les Falcons. Tu peux pas avoir un retour plus en douceur que ça pour Tua. C'est le temps là ou jamais de montrer que l'équipe doit croire en toi. Faut que tu sortes de grosses performances. Du côté des Jaguars, ben t'as Trevor Lawrence qui, malgré les défaites qui s'accumulent, prend du mieux quand même à chaque semaine. J'aime beaucoup plus son jeu depuis 2 semaines qu'en début de saison, mais ce sera pas assez pour battre les Dolphins. Encore une fois, pauvres gens de Londres, on les garde pas avec les gros canons. Là. La semaine passée, c'était Jets-Falcons, là Jaguars-Dolphins.
Mais ils s'en foutent, là, c'est toujours plein, puis il y a de l'ambiance.
C'est toujours plein, ça. Ils répondent bien, là, c'est
ils
sûr.
Ils répondent vraiment, vraiment bien, honnêtement.
Oui.
Mais faudrait voir sur une saison, quand ils parlent d'implanter un club à Londres, t'as un club comme ça pendant 17 semaines, ça risquerait d'être un peu plus compliqué.
J'ai l'impression que ça risque d'être peut-être un petit peu plus difficile pour les Jags offensivement. Ça allait beaucoup mieux, mais ça reste les Dolphins ont vraiment pas une mauvaise défensive.
Le match dans la fin de semaine.
Ouais, je sais, mais je pense que ça va être mieux balancé un peu. L'attaque va en faire un peu plus, donc un peu moins de pression sur la défensive. Je vois les Dolphins qui l'emportent, mais je suis pas convaincu tant que ça, mais je prends les Dolphins.
OK, un autre bon match. Ben, en fait, un autre bon match. Un premier bon match, je dirais, cette semaine. Les Chargers s'en vont à Baltimore pour affronter les Ravens, qui ont une fiche surprenante, mais toujours dans des fins de match abracadabrante.
Ouais, les Ravens qui ont le don cette année. Vas-y, Jean.
Ah, excuse-moi. Ben, écoute, je veux juste revenir sur la performance de Lamar Jackson, lundi soir, ça a peut-être pas chaud, ça a passé un peu dans le vide. C'est une des meilleures performances. C'est la meilleure performance que j'ai vue de lui comme carrière qui lance le ballon. Il a été extraordinaire, là. Il a complété 37 de ses 43 passes pour 442 verges, 4 touchés, pas d'interception. Ceux qui le critiquent, là, je veux dire, tu le critiques sur quoi? il était extraordinaire. S'il monte ce genre de progression-là comme carrière, ben, je suis désolé, mais ça se peut que ça devienne le meilleur carrière de la NFL, point. C'est-à-dire, c'est ça qui lui manquait. S'il est en train de compléter ça,
Après tout ça, tu peux pas dire que les Chargers vont gagner ce match-là?
Ben, il faut pas qu'il fasse tout seul, mais tu sais, si je veux dire, si la différence, c'est que selon moi, les Colts, c'est pas nécessairement les Chargers. Les Chargers ont plus de punch offensif, puis on l'a vu, si les Chargers prennent les devants, ben, probablement qu'ils vont continuer à mettre des points. Mais non, j'ai les Ravens dans ce match-là. Je trouve encore que les Chargers sont jeunes, on l'a vu aussi. Ils ont une défense contre le sol. Ça a été extrêmement pénible contre les Browns. Ça reste que les Ravens aiment aussi courir avec le ballon. Je pense que Baltimore va jouer un match. Ils attendront pas à la toute fin pour bien jouer. Puis Lamar Jackson va faire la différence.
OK. Steph?
Je vais y aller avec les Chargers. Tu sais, tu mentionnais, Jean, faudra pas que Lamar fasse tout seul. S'il y a un problème à Baltimore, c'est ça. C'est juste ouais. Ça. Rien contre Lamar, au contraire. Il joue du football phénoménal par les temps qui courent. Mais tu regardes, sur 523 verges d'attaque contre les Colts, Lamar est responsable de 504 de ces verges-là, en comptant la passe et la course. En ce moment, c'est un one-man show, là, l'attaque de Baltimore. Je suis pas sûr d'une recette comme ça contre un club qui joue aussi bien que les Chargers. C'est sûr que ça me fait peur. Les Chargers sont bons derniers dans la NFL contre la course. Ça, c'est un élément qui fait peur. Mais de l'autre côté, on parle tout le temps de la grosse défensive des Ravens, puis c'est devenu un peu surfait. Ils sont 28e actuellement, les Ravens, contre la passe. Je pense que Justin Herbert peut s'amuser à dépecer cette tertiaire-là.
OK, Kirk Cousins et son enthousiasme débordant, même avec son ouais, entraîneur.
Quelle scène étrange.
Oui, affronte, on en parlera, mais affronte les Panthers de Caroline avec un Sam Darnold qui s'est pas mal transformé en citrouille là, depuis la blessure de McCaffrey.
Oui, ben on en parlait la semaine passée, Darnold. Je pense que mon point, ça avait coupé un peu, mon micro buzzait ou je sais pas quoi. Là. Mais il y avait des touches au sol qui le faisaient un peu bien paraître côté statistique. Puis là, dans les fantasy, il se trouve être bon parce qu'il y avait 5 touches au sol. Donc, Sam Darnold est ressuscité. C'est pas chic depuis 2 semaines. 5 interceptions à ses 2 derniers matchs. Ça pourrait être difficile. La défensive des Vikings qui se ressaisit. T'sais, l'équipe est 2-3. Là, c'est pas une équipe à tout casser. Mais la défensive joue mieux. Je vais y aller, moi, avec une victoire des Vikings dans ce duel-là. Kirk Cousins et l'attaque doivent se remettre en marche, là, par contre. Ça a été plus difficile contre les Browns, 7 points. Contre les Lions, ça a été beaucoup plus difficile que prévu aussi. C'est le moment là de se relancer. Puis ça fait peur à cause de la défensive des Panthers qui connaît vraiment une bonne saison. Mais je vais faire confiance au final à la défensive des Vikings pour encore une fois générer quelques revirements et beaucoup de pression sur Darnold.
Et est-ce que Kirk Cousins et Mike Zimmer sont des amis?
Ah non, ça c'est clair que non. Ceux qui ont vu l'espèce de célébration bizarre après le match, c'est clairement Kirk Cousins qui va remettre quelque chose d'en face à Mike Zimmer. Je ne sais pas quoi, mais à un moment donné, il faut que Zimmer le repousse puis qu'un des assistants les sépare. C'est vraiment étrange comme moment. Puis Cousins a un peu blagué après le match en disant « Non, 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 on célébrait, on est intense. Allez voir la scène, dites-moi ce que vous en pensez. » Mais pour moi, c'était clairement Cousins qui est fier, qui est pompé de sa remontée de dernière minute contre les Lions puis qui s'en va un peu provoquer Mike Zimmer. Là, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. J'aurais été curieux là, qu'il soit, en bon français, mic'd up.
Mais il l'était, hein, je pense que Cousin, il l'était, là.
Ah, OK, mais je vais aller le voir avec le son carrément, là, mais ça c'était très bizarre comme célébration slash confrontation.
OK, Jean, toi, est-ce que Sam Darnold peut retrouver ses sens contre les Vikings à domicile?
C'est possible. Tu sais, je pense que je suis pas ultra confiant dans cette confrontation-là. Je vais prendre les mauves également. Mais tu sais, est-ce que Dalvin Cook va jouer? Est-ce que CMC va jouer pour Caroline? C'est pas encore certain. Ça reste que 2 très bons porteurs qui sont éclopés pour l'instant. Madison est clairement meilleur, par contre, comme réserviste. Donc, je vais prendre les Vikings pour moi.
OK, rapidement, les Packers contre les Bears.
Écoute, la fiche en carrière de Brett Favre contre les Bears, c'est de 21 victoires, 5 défaites.
Aaron Rodgers, tu veux dire?
Oui, Aaron Rodgers, excuse. une victoire en prolongation, c'est tout un tortionnaire. et pour ceux qui se demandent c'est quoi le record face à une équipe, c'est Dan Marino qui a 72 victoires face aux Jets. Brett Favre en a 61 également contre les Bears. Mais ceci étant dit, je vais prendre Aaron Rodgers qui va battre les Bears.
Ouais, ça pouvait pas être mieux présenté. Là, j'ai toujours plus confiance à l'attaque des Packers qu'à celle des Bears. Ça change pas. Ils ont retrouvé quand même un football intéressant du niveau de défensif, les Bears, depuis une couple de semaines. C'était pas le cas en début d'année. On se demandait ce qui se passait. Khalil Mack, qui est vraiment revenu en force, là, il a hanté les Raiders la semaine passée. Il vivait dans le champ arrière carrément. Mmh. Donc ça, c'est encourageant, mais pas assez pour aller battre les Packers.
On ne pleure pas au baseball, mais apparemment, on pleure au football. Est-ce que les Bengals vont faire de la peine à Dan Campbell encore cette semaine?
Oui, je pense que oui. Les Bengals, j'adore la façon dont ils jouent. Maintenant, il va falloir que tu parlais de baseball pour poursuivre dans cette veine-là. Peut-être que Joe Burrow pourrait prendre un petit cours là avec un voleur de but au baseball. Comment glisser au deuxième coussin? Joe Burrow, faut absolument qu'il commence à se protéger de lui-même. C'est impératif. Là, vraiment, la semaine passée, ça a fait peur, le hit qu'il a mangé contre les Packers. Si Joe Burrow continue de s'exposer comme ça, il va nuire, premièrement, à sa carrière. Deuxièmement, il va complètement anéantir les chances des Bengals. Parce qu'on le voit, c'est une équipe en progression. Puis ça devrait continuer contre les Lions.
Écoute, j'adore les Lions. J'aime ça, Dan Campbell, qui est proche de ses émotions.
As-tu dit que tu adores les Lions?
Ouais, ben j'aime la façon qu'ils se battent présentement. C'est pas une proie facile. C'est juste ça que je veux dire. Non. Écoute, oui, ils n'ont pas de victoire, mais il y a au moins deux matchs, selon moi, qui auraient mérité un meilleur sort. Mais ceci étant dit, je vais quand même prendre les Bengals.
Les Rams, favoris par un touché contre les Giants, qui ont beaucoup de questions pour leur alignement d'attaque pour le dimanche.
Ouais, je vais prendre non seulement les Rams, mais le spread également. Là, écoute, qui va jouer et qui va pas jouer? Là, c'est embêtant. Comme on le disait à chaque semaine, là, dans le cas des blessures, au moment où on enregistre, on n'a pas beaucoup de détails. Les équipes se sont pas encore entraînées, donc c'est difficile de savoir est-ce que Daniel Jones va être remis de sa commotion. Est-ce que Barkley, ça semble un peu plus sérieux. Là, une cheville encore, là, ça a viré tout croche. Il reste que peu importe qui va être là, même si tout ce beau monde était là, les gars, là, les Rams devraient gagner ce match-là par au moins un toucher, à moins d'une performance très décevante. Donc, oublions les blessures, là, ça va être une victoire des Rams assez facile.
Puis, ben, même si tu mets la blessure, tu veux-tu vraiment mettre Daniel Jones qui revient d'une commotion qui affronte les Rams?
Ça aussi, il est déjà mêlé quand il n'y a pas de commotion, j'imagine pas là.
Avec, moi, je trouve ça plate parce que je trouve qu'il commençait à jouer du bon football là, maintenant. C'est vrai. Ceci étant dit, j'ai les Rams. C'est même mon pick survivor cette semaine.
OK, les Chiefs s'en vont à Washington. Ils sont favoris par 7 points, les Chiefs, quand même, dans ce match-là. Puis, je trouve ça beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu, là, Tyler Haneke, là, il y a quelque chose qui se passe autour de lui. Là. Il a raconté... Je suis pas un émotif là comme Dan Campbell, mais quand il a raconté qu'il était heureux de la victoire qu'il est allé chercher à Atlanta devant sa sœur et son beau-frère qui étaient les derniers à croire encore en lui il y a quelques années après qu'il avait sorti de la XFL. Je sais pas si vous avez vu cette entrevue qu'il a donnée après le match, mais il se passe quelque chose, on dirait, autour de Tyler Haneke et de l'équipe de Washington.
Ben, les gars l'aiment bien, là, ça a l'air d'être un rassembleur. C'est le fameux gunslinger. Il va faire des folies qui vont rapporter, mais il va faire des folies qui vont coûter. La semaine passée, on l'a vu, deux interceptions contre les Saints, dont une à la porte des buts qui a fait vraiment mal, qui a changé le cours du match complètement. Donc, c'est pas tout beau là pour Tyler Haneke. C'est une belle histoire. Mais je pense pas que c'est le corps arrière du futur. Il rend de bons services quand même là, dans son rôle actuel. Tout ça pour dire qu'on a droit à un match avec deux défensives atroces actuellement dans la NFL. Là. On parlait de Washington tantôt là, qui donnait 31 points par match. Très difficile par rapport à l'année passée, c'est le jour et la nuit. Mais les Chiefs sont pires. 32,6 points par match. Il faut absolument corriger ça. Est-ce que Frank Clark et Chris Jones vont finir par jouer en même temps? Je dis pas que ça va tout régler les problèmes des Chiefs, mais ça va certainement aider parce que depuis le début de la saison, quand un est là, l'autre est pas là. Donc, ça pourrait le aider si Chris Jones revient au jeu. Je vais y aller avec une victoire des Chiefs, mais je suis pas convaincu par l'écart de points. Là, attention aux parieurs, parce qu'ils devraient se marquer beaucoup de points de part et d'autre.
Beaucoup de points, puis est-ce que les Chiefs vont être capables d'arrêter l'attaque au sol de l'équipe de Washington? C'est une très bonne question. À un moment donné, si tu veux gagner, il faut que tu arrêtes au moins l'adversaire une fois. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Je vais quand même prendre les Chiefs. Je pense que il devrait peut-être en faire une petite affaire plus offensivement. Je suis d'accord avec Stéphane. L'écart peut. Pour moi, 7, c'est vraiment beaucoup.
On n'aurait pas dit ça dans les dernières années, mais quel match nous attend entre les Cards et les Browns en fin de semaine à Cleveland? Ouais, c'est pas la météo encore, mais ça risque d'ajouter.
Oui, très intéressant, en effet. Puis, il y a un mauvais match-up, vraiment, je trouve, dans ce match-là. J'aime le fait que les Cards soient invaincus, qu'ils aient joué du gros football contre des grosses équipes comme les Rams, mais ils donnent 139 verges au sol par match. Tu sais, quand je parle de mauvais match-up, tu affrontes l'équipe la plus redoutable au sol. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est les Ravens, mais les Ravens, il y a le facteur Lamar Jackson qui... C'est complètement autre chose, là. Contre les Browns, c'est une équipe qui va courir, courir et courir, qui va avoir des porteurs de ballon avec les jambes fraîches entre Kareem Hunt et Nick Chubb. C'est sûr que tu baisses un petit peu de niveau quand tu arrives avec Kareem Hunt, mais c'est quand même deux excellents porteurs de ballon. Je pense que c'est ce qui va faire mal aux Cards dans ce match-là. J'y vais avec une victoire des Browns.
Je l'avais dit, moi je pense que c'est les Browns qui vont arrêter la séquence victorieuse des Cards. Je pense qu'ils vont contrôler l'horloge avec la course. Ils vont essayer d'empêcher les Cards de mettre leur attaque dévastatrice aussi sur le terrain. Quand même, l'attaque numéro 6 qui affronte l'attaque numéro 5 de la NFL. Donc on peut s'attendre peut-être à plus de points, mais la surface en Ohio est lente, hein. Je trouve que, je sais pas, le gazon est peut-être plus long. Hein. Je sais pas ce qu'ils font des fois au stade des Browns, hein, mais je m'attends quand même pas nécessairement à une tonne de points. Puis je vois les Browns sortir gagnants de ce duel-là. Il faut, parce que même s'ils jouent du bon football, les Browns, s'ils perdent ce match-là, ils jouent seulement pour 500.
Ils vont aller étendre la boîte samedi soir, tu vas voir.
Les Broncos, qui se cherchent depuis leur séquence de début de saison, reçoivent les Raiders, qui, eux, auront un nouveau coach.
Oui, puis ça, on ne sait jamais comment ça va dire. C'est soit l'équipe qui a un espèce de vent de renouveau, qui souffle avec plus
mais
de
dimanche, légèreté. Les Raiders n'avaient pas l'air là.
Oui, carrément. Carrément, contre les Bears, c'était pénible à voir aller. Tout le monde avait perdu ses repères. Donc, est-ce qu'il va avoir un effet comme... De sentiment de liberté, puis on joue plus relax, puis ça profite? Ou, au contraire, c'est comme le coach n'est plus là, c'est la tourmente, on a passé la semaine à être distrait, à répondre à toutes sortes de questions autres que le football, puis ce poids-là nous affaisse un peu. Écoute, là, rendu là, on flippe un 25 cents, mais je vais y aller, moi, pour le retour en force des Raiders. Tiens, je continue de croire qu'il y a une attaque qui peut causer des dégâts entre Derek Carr, ses receveurs, Josh Jacobs, le porteur de ballon, un excellent tight end en Darren Waller. Je pense qu'il y a plus d'armes que du côté de Denver. Puis Denver, depuis le début de l'année, on a investi massivement sur la tertiaire, que ce soit au repêchage ou par le marché des agents libres. Puis c'est une tertiaire qui déçoit quand même là, jusqu'ici. Donc, je vais y aller avec l'aspect légèreté de retour chez les Raiders pour miser sur eux.
L'aspect légèreté. Un entraîneur a souvent des unités spéciales aussi, c'est très rassembleur parce qu'il connaît un peu tout le monde. Donc, ça peut donner des ailes effectivement aux Raiders. Par contre, un gros point, c'est John Gruden qui appelait les jeux offensifs. Je sais pas qui va le remplacer. Ça sera sûrement pas pareil. Il y a personne qui connaissait l'attaque de Gruden comme John Gruden. Donc ça me fait douter. Je vais prendre les Broncos dans ce match-là, mais ça, c'est vraiment dur de savoir comment les Raiders vont sortir.
Les Cowboys en vont en Nouvelle-Angleterre et sont seulement favoris par un point, hein?
Ouais, c'est pas un gros écart.
Je suis un peu surpris.
J'y vais avec les Cowboys dans ce match-là. Cowboys. Ouais, tout ça. Moi, j'y vais aussi. J'y vais avec les Cowboys. Ils jouent trop du bon football actuellement. C'est pas des victoires
à l'arraché,
comme on dit. Là. C'est pas à l'arraché. Il y a eu un miracle ici et là. T'sais. Ils jouent bien. Ils jouent solide au sol. Ils jouent solide par la passe. La défensive qui est améliorée. Trevon Diggs qui multiplie les interceptions encore une autre en fin de semaine. Non, je pense qu'il n'y a pas de raison là, pour aller échapper ce match-là contre une équipe comme les Pats qui, écoute, ça a tout pris là, pour battre les Texans. C'est vrai, ça a été des signes de progrès de Mac Jones. Là. Faut le voir du côté positif. Mais quand même, ils se sont creusé un trou assez important contre les Texans. Tu peux pas faire ça contre une équipe supérieure comme les Cowboys.
J'espère vraiment que c'est les joueurs qui vont décider à l'issue du match, parce que si c'est les entraîneurs, je donnerais ça aux Pats. Mais je pense que c'est les joueurs qui vont le décider. Je pense que les Cowboys vont gagner ce match-là. Les Cowboys, en passant, deuxième meilleur ratio au niveau des revirements de la NFL. Écoute, l'an passé, ils étaient peut-être derniers là-dessus. Là. Ils sont plus 7 cette année. Ça, c'est un gros, gros revirement de situation. Je pense qu'il manque un petit peu de munitions offensives aux Pats s'ils veulent suivre les Cowboys là, dans un match un petit peu plus offensif.
Dimanche soir, on va avoir les Seahawks contre les Steelers.
Ouais, là, la question, c'est est-ce que tu choisis l'attaque des Steelers qui en arrache depuis le début de l'année, qui a connu enfin un réveil la semaine passée, mais qui perd Juju Smith-Schuster, ou l'attaque des Seahawks qui risque d'être difficile à reconnaître là, avec Geno Smith?
Geno.
Ouais, c'est ça. Je vais y aller, moi, avec les Steelers. Il y a une autre raison aussi. Tu vois, les Seahawks actuellement en défensive qui sont complètement perdus, ça me fait penser au début de saison l'an passé, avant qu'ils se ressaisissent un petit peu. Là, en fin d'année, on pouvait parler d'une défensive moyenne. Actuellement, là, ils sont sur une très mauvaise séquence. Ils viennent d'accorder 450 verges ou plus dans 4 matchs de suite, les Seahawks. C'est la deuxième défensive de l'histoire à accomplir, entre guillemets, pareil exploit. C'est vraiment difficile. Donc, j'y vais avec l'attaque des Steelers qui continue tranquillement, pas vite, de se relancer autour de Ben Roethlisberger et Najee Harris qui vient de connaître son meilleur match dans la NFL au sol.
Exact.
D'ailleurs, ceux qui l'ont dans leur peau le savent.
Mais je dirais aussi, faut pas oublier que la défensive des Steelers demeure pour moi une défensive top 10. Ouais. Elle peut être vraiment talente à jouer. Là, tu as Geno Smith, convaincu qu'ils vont être en mesure de créer un ou deux revirements importants à victoire des Steelers.
Lundi, les Bills affrontent Derrick Henry et les Titans à Tennessee. Derrick Henry qui est sur un rythme effréné.
Ouais, mais le problème, c'est que tu affrontes la 8e meilleure offensive, la meilleure défensive de la NFL, puis la meilleure équipe pour créer des revirements avec un ratio de plus 11. C'est quand même spectaculaire présentement les statistiques des Bills. Je vais prendre les Bills. Ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de Derrick Henry. Puis même là, je pense qu'ils vont être un petit peu short. Donc, je vais prendre les Bills pour remporter ce match-là. Il y a un nouveau shérif dans l'AFC. C'est les Bills.
Tu parles, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de Derrick Henry. En effet, ça, c'est indéniable. Puis le problème, c'est que si tu prends beaucoup, beaucoup de Derrick Henry contre les Bills, c'est une équipe qui est troisième dans la NFL contre la course. Fait qu'à toutes les brillantes statistiques concernant les Bills que tu as mentionnées, il faut ajouter celle-là. Ils donnent 78 verges au sol par match, les Bills. Tu cours très difficilement contre eux. Donc, j'y vais avec une victoire aussi des Bills sans équivoque.
Merci, messieurs. Bonne semaine.
On a-tu parlé de Texans Colts? C'est-tu moi qui l'oublie? Ou...
Ouais, tu as bien raison. Je ne l'ai pas sur ma liste.
Pour pas se faire dire par nos auditeurs qu'on sorte des matchs puis qu'après ça, on augmente nos moyennes. Là.
Mais non, je l'ai pas sur ma liste. Peut-être que les cotes étaient pas sorties. Mais vas-y donc, Texans, Colts, en effet.
Ben, moi, j'y vais avec une victoire des Colts, tout simplement. Je sais plus à quoi m'attendre de Davis Mills, le corps arrière des Texans. T'sais. Il a connu des matchs très difficiles dans les semaines avant celui contre les Pats. Puis contre les Pats, honnêtement, il a été brillant. Je sais pas quel genre de performance il peut sortir, mais du côté des Colts, Carson Wentz, qui a semblé quand même se retrouver un peu là, face aux Ravens malgré la défaite, là, je vais y aller avec les Colts.
Je vois avec les Colts aussi, mais c'est une défaite qui a vraiment fait mal aux Colts là, la semaine passée. Là, elle a, ça, c'est le genre de match qui peut vraiment foutre en l'air toute une saison. Donc,
Faut se répéter dans le vestiaire. Il y a 17 matchs. Il y en a d'autres qui s'en viennent.
Tu commences à gagner. Tu as une seule victoire depuis le début de la saison.
OK, là, c'est vrai. Merci, les gars. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine aux auditeurs aussi qui vont regarder cette semaine. Puis là, restez là parce qu'après la pause, on va aller au bar. Alors que la semaine passée, il y avait Urban Meyer. On va voir qui va aller visiter Urban Meyer au bar cette semaine. Restez là. I got a hangover. Whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Jean, qui t'en va au bar cette semaine? Qui t'a envie de punir là pour ses actions répréhensibles?
Écoute, je vais envoyer le batteur des Bengals, Evan McPherson. Il reste 4 minutes 18 à faire à la prolongation. C'est 22-22. T'as une chance de battre les Packers à domicile. C'est ton deuxième botté pour battre...
Presque à la même place.
Ouais, exact, aussi. Ton deuxième botté de placement pour espérer battre les Packers. Tu bottes, tu commences à célébrer parce que tu penses que ton ballon il est entre les deux poteaux et t'entends clairement le ballon toucher le poteau aussi, mais pas pour Evan McPherson qui était déjà dans les bras de ses coéquipiers et que ça a pris un bon 5 à 10 secondes avant de se rendre compte qu'il avait raté son botté.
C'est vrai que ça fait pas des bien belles images, ça.
Un peu loufoque, des images un peu loufoques. Donc, écoute, mais j'envoie Evan McPherson, j'envoie aussi une coupe de batteur aussi. Là. Il y a eu 12 convertis de ratés cette semaine dans la NFL. Donc, une tournée générale classique, même pas une tournée de bière pour Evan McPherson. Exact, tournée de bière, tournée de boisson. Puis fais juste t'assurer de mettre le ballon entre les deux poteaux avant de célébrer la prochaine fois.
Steph?
Hey, tu parles des batteurs. J'ai une bonne idée parce que les batteurs, tu sais, si tu envoies un convoi de batteurs, pourquoi pas? T'sais, on a un Québécois hein, qui n'a rien à voir, il n'a rien fait de mal, là, soit dit en passant, mais J.J. Molson, qui est le batteur réserviste des Packers, qui est quand même d'une famille très connue dans le monde de la boisson. Je pense que ça peut servir à ses amis botteurs. Là. Il y a certainement des rabais, il y a certainement des bons prix. Si ça peut aider...
Oui, 15 à 24 au coste.
Ouais. Ben, semble, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Là. Je veux pas non plus taper trop sur les botteurs. S'il peut aider à leur malheur un petit peu en fournissant la bière, pourquoi pas? Moi, je vais envoyer...
C'est quoi? C'est le kicker suppléant des Packers?
Ouais, ouais, c'est le ben en fait, il est sur l'équipe de réserve parce qu'il est pas sur l'alignement régulier là, mais tu sais Mason Crosby avant sa fin de semaine difficile, il avait comme 27 placements en ligne, il jouait le meilleur football de sa carrière, donc c'est sûr qu'on n'est pas prêt de voir J.J. Molson sur le terrain, mais si il devait arriver de quoi à Crosby, c'est un Québécois qui va botter chez les Packers. Fait que sur cette petite note, moi j'envoie plutôt le propriétaire des Colts, Jim Irsay, au bar. Pourquoi lui? Écoute, il vient de dire après la défaite des Colts, restez avec nous les fans. Je vous le garantis, d'ici la prochaine décennie, on va remporter au moins 2 Super Bowls.
Oui.
Je veux bien, la confiance, c'est quelque chose de bien en vie, mais sur quoi tu te bases actuellement pour dire que les Colts vont remporter au moins 2 Super Bowls? Puis je trouve ça un peu malaisant quand t'as eu coup sur coup Peyton Manning et Andrew Luck, puis que t'as été capable d'aller chercher un seul Super Bowl avec ça. Actuellement, je vois pas comment ils peuvent aller en chercher la moitié d'un Super Bowl, encore moins 2 et plus. C'est une déclaration étrange. Je sais pas si c'était un fameux, entre guillemets, un drunk tweet là, que t'écris le soir quand t'as bu un peu trop de scotch. Mais Jim Irsay, je l'envoie là, avec les batteurs, consommer une dose de réalisme avec Dan Molson en masse.
Merci Steph, merci.
Sois gentil avec Jim, hein, parce que justement les problèmes de boisson sont. Fait que peut-être un petit Virgin quelque chose, ça serait peut-être bien pour Jim.
Ben, j'ai mentionné drunk tweet là, puis en connaissant un peu le personnage, j'ai l'impression qu'il y avait de ça là-dedans. Là.
C'est pas possible.
Merci les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de la Zone Payante. Bonne semaine de football à nos auditeurs. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.